RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre légende à nous, le maître Yodu. Johan Durand qui est là comme tous les épisodes d'RMC Running. Salut Yodu.
C'est ça. Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça va, t'es en forme? T'es rentré à la maison?
Bien récupéré de ce 20K, hein, écoute.
Ouais, écoute.
Magnifique.
J'ai vu ça.
Superbe course.
Alors moi j'ai mis plus de temps, mais parce que moi j'ai pas couru les doigts dans le nez comme toi. Donc...
Ouais, c'est vrai que peut-être ça joue, effectivement.
Non, mais
t'as
c'est bien.
Très bien couru, bravo.
Bah merci. J'ai eu la chance et l'honneur d'être accompagné par Johan quand même sur 10 km. D'ailleurs, on l'a pas fait Johan, mais on le fait parce que c'est l'occasion. On remercie tous ceux qui nous ont encouragés sur le parcours à Paris. Hein. C'était assez hallucinant.
C'est vrai qu'ils étaient nombreux. Ça fait du bien.
Les mecs essoufflés qui passent à côté de toi et qui te disent bravo pour le podcast. Donc,
ah ouais, et ouais, en gros, c'est ça. Les mecs, pas que des spectateurs, des mecs dans la course. Hein,
qui, exactement.
Il y en a beaucoup. Ouais.
J'ai pu constater ta cote de popularité. J'étais impressionné. Tout à fait.
Ah, Paris, c'est chez moi, je crois.
C'est ça.
C'est là où, même à Bergerac, je te jure, je suis pas autant encouragé et reconnu que... à Paris.
Bon, gardez les bons réflexes, hein. Retrouvez-nous sur Instagram, le compte RMC Running, le club RMC Running également sur Strava, et puis abonnez-vous aux plateformes de téléchargement Apple, Spotify et Deezer, comme ça vous ne ratez aucun épisode d'RMC Running. On met en avant une belle histoire aujourd'hui, on est vraiment ravis de saluer cette magnifique initiative. On va recevoir Malek Boukherchi, qui est ultra-marathonien, qui est anthropologue et qui monte un magnifique projet. Il va emmener 25 jeunes en difficulté à New York pour disputer le marathon le 2 novembre prochain. Il va nous raconter la genèse de ce projet, comment il a sélectionné les profils, comment il les accompagne dans l'entraînement du marathon, parce que ça reste une épreuve de vie. Donc on racontera tout ça d'ici quelques secondes. Comment la course à pied peut permettre à des jeunes de prendre confiance en eux. Ça va être passionnant, restez avec nous. Il y aura un bon plan également dans cet épisode, on va mettre en avant la marque Gorewear grâce à Ludovic Tépin, le responsable de la marque, qui va vous faire gagner 3 vestes Concurve Insultated. Donc n'hésitez pas, écoutez ça parce que c'est vraiment des produits de qualité et les mauvais jours arrivent Yodu, donc il faut se couvrir.
Oui, il faut une bonne veste là.
Ça y est, ça commence.
Ça va pas tarder.
Allez, on y va, c'est parti pour RMC Running, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on y va. Malek Boukherchi à mes côtés aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour Malek.
Bonjour Benoît.
Ravi de te recevoir dans cet épisode d'RMC Running. Grand passionné de course à pied, de sport en général, mais en particulier de la course à pied.
De sport en général et effectivement la course à pied me structure.
Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter cet amour justement de la course, comment c'est né, comment tu l'as développé au fur et à mesure des années?
Ah, ça c'est... Je dis souvent que la vie est faite de 3 ingrédients. Il y a les circonstances qu'on ne maîtrise pas et on ne les maîtrisera jamais. Les choix. On est tous des êtres de choix et ça ne dépend que de nous de basculer soit dans la fatalité ou dans la félicité. Elle est faite de rencontres. Et je crois beaucoup aux rencontres. Et c'est les rencontres qui m'ont permis de basculer sur la métaphysique de l'asphalte. C'est comme ça que je parle. Je ne crois pas qu'on commence à bien courir.
Ah, Johan, il en parle moins de la métaphysique de l'asphalte.
Ah ouais, de l'asphalte.
Mais il y a une vraie métaphysique de l'asphalte qui se met en place une fois qu'on y met. Mais à l'origine, moi, mon ADN, c'est le ballon rond. Parce que j'ai grandi dans un quartier compliqué en Alsace et papa a eu cette intelligence situationnelle. Il savait que si tu ne sais pas taper du ballon rond dans un quartier compliqué, tu n'es pas crédible sur le plan des relations sociales. Ce n'était pas le sport que je voulais faire quand j'avais 4 ans, 5 ans. Mais il fallait taper du ballon rond. Donc, j'ai joué au foot longtemps, très longtemps. Et quand tu joues au foot, tu cours. Alors, c'est ludique. Tu ne vois pas l'aspect course à pied, d'inertie du corps. Et donc, j'ai joué au foot jusqu'à mes 28 ans. À mon époque, à 28 ans, on était vieux. C'était comme ça. Aujourd'hui, on peut jouer jusqu'à 30 ans, 40 ans au niveau professionnel. Mais à l'époque, même les meilleurs joueurs professionnels, je ne sais pas si tu te rappelles.
Bien sûr, 30 ans, 31 ans, c'était fini.
C'était fini. Hein, les Gires, le seul Gires a duré jusqu'à 36 ans. Hein, mais les autres, tout le monde s'arrêtait. Les Platini à 29 ans, 30 ans, c'était fini. Hein. Donc, on me dit que tu étais vieux. C'est violent quand tu dis que tu es vieux à 28 ans. Hein. Et la seule solution que j'ai trouvée, achat d'une paire de baskets. Parce que je ne concevais pas la vie, et encore aujourd'hui, plus que jamais encore aujourd'hui, il s'agit de mettre le corps en mouvement. On est dans une société de sédentarité, c'est le mal du siècle. Et je ne concevais pas une vie sans un minimum d'activité physique et d'activité cérébrale, donc j'achète une paire de baskets. Mais entre nous, et ça tu le sais, basculer de la pratique ludique footballistique, le foot c'est joyeux, c'est collectif, il y a une émulsion. Tu n'as pas l'impression de faire du sport quand tu joues au foot.
Mais...
à la pratique isolée de l'asphalte.
Ah, ça c'est complètement différent.
Courir est ingrat. Je mets quiconque au défi au démarrage. Après, il y a des grands spécialistes comme Johan, je l'entends. Mais moi, je sais, la première fois, courir, aucun plaisir. J'étais fouteux, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce sport ?
Tu parles à un mec qui a joué au foot jusqu'à son adolescence, qui a été repéré par des coachs d'athlètes et qui a basculé. Donc tout ce que tu racontes, il l'a vécu, mais un peu plus jeune que toi.
Ah ben, tu vois.
Et avant de basculer dans le haut niveau.
Ah voilà, après lui, moi je suis arrivé trop tard, à 28 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que tu bascules dans la course à pied, hein ? Encore une fois, c'est les circonstances. J'avais un pote à Lyon. Son père était coach dans un club. Il m'a inscrit un 10. S'il ne m'avait pas inscrit sur un 10, si je n'avais pas un objectif de faire un 10 km, je trouvais 15 000 excuses pour ne pas y aller. Si tu n'as pas d'objectif, te faire violence, aller au-delà, c'est dur. Et je voulais honorer, je suis quelqu'un de très loyal, hein, donc je voulais honorer ce cadeau, alors que je ne voyais pas que c'était un cadeau au début. Qu'est-ce que je vais faire un 10 km?
Un dimanche matin.
Voilà, en plus, un dimanche matin, tu te lèves tôt alors que tu as envie de... Et quand j'ai fait mon premier 10 km, pour moi, ça a été... l'alpha et l'oméga du dépassement de soi. Putain, j'ai faim. Alors qu'au foot, tu cours 10 km. Tu vois, on a l'habitude de courir en fractionné, mais tu ne les vois pas.
Bien sûr.
Mais sur course à pied, d'un point A à un point B, tu fais 10, tu te dis, wow, j'ai fait 10 km. J'étais heureux.
L'euphorie du premier dossard.
Voilà. Enfin, on l'a tous ressenti. C'est un moment exceptionnel. Et après, tu rencontres des gens qui te disent, ah, Malek... t'as pas tout donné, parce que je sautais comme un cabri sur la ligne d'arrivée, je discutais avec tout le monde, je suis resté 2 heures sur la ligne d'arrivée à parler avec les gens. Et certains m'ont dit, Malek, tu pourrais peut-être aller un peu plus vite, et progressivement tu bascules, alors modestement, à mon modeste niveau, dans une logique de chrono, et après la machine.
T'as été pris par le truc du chrono quand même. T'as
quand j'étais jeune, hein, ouais, voilà.
33-30 au 10, hein, donc c'est un chrono. De
voilà, donc quand j'étais jeune, on est toujours jeune, hein, mais voilà, tu joues le chrono, hein. Et après avec le temps, avec l'âge, tu commences à voir les choses différentes. Hein. Et du chronomètre, maintenant j'ai basculé sur baromètre, mais j'ai basculé du 10 au marathon, du marathon à l'ultra trail. Toujours dans cette logique chronométrique. Et après à un moment donné, tu te dis, mais and so what ? La vie, elle est tellement... Les gens vivent déjà tellement de pression et de contraintes dans le monde professionnel, on est toujours derrière un chrono. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Et courir pour moi, avec le temps, c'est qu'un prétexte pour rencontrer les gens et rencontrer le monde. Parce que les plus beaux paysages, ça reste les visages, tout le temps. Et la bascule s'est faite en rencontrant un coureur advet qui m'avait dit, un coureur suisse qui m'avait dit « Malek, tu cherches autre chose, augmente ta distance, arrête l'ultra trail, t'es derrière un chrono, parce qu'on est derrière un chrono, même à la diagonale. Va dans les déserts. Là, tu auras le temps de rencontrer les mondes, de te rencontrer toi et de partir à la découverte d'un monde insoupçonné. » Et j'ai trouvé ça fascinant. Je ne sais pas avec qui ni comment. Mais il y a 25 ans, je me dis « Tiens, je vais tenter l'aventure. » Basculons sur un univers totalement improbable, univers insécurisé, parce qu'autant la course à pied, marathon, ultra-trail, univers sécurisé.
Ah oui, là c'est autre chose, c'est de l'aventure.
Ah là, on bascule dans l'aventure la plus totale, en totale autonomie, parce qu'on est en totale autonomie, on est 10 à partir, au bout d'une heure t'es tout seul, hein. Il n'y a pas de bivouac, il n'y a rien, et on fonctionne à l'ancienne carte boussole, donc il m'a fallu 3 ans pour apprendre les rudiments d'une carte et d'une boussole, à me repérer dans le désert. Donc tu as une préparation optimale, mais la préparation ne sert à rien parce que le désert est un univers totalement insécurisé. Tu dois faire preuve d'agilité et d'adaptation permanente, mais tu y vas avec l'envie, la joie et la foi. Et je sais que dans les déserts, moi je suis anthropologue, j'y voyais l'occasion de concilier ma passion de l'anthropologie relationnelle et de la course à pied. Donc aujourd'hui, je me définis comme un anthropodologue. Anthropologue et podologue, ça donne anthropodologue. Et je pars à la rencontre des mondes.
Tu ne fais pas parler les chaussures encore.
Mais il y a un proverbe que les peuples premiers disent, hein, quand les pieds dansent, la tête pense.
C'est vrai, mais ça se vérifie d'ailleurs quand on pratique la course à pied. Tout le monde sait, ouais. Johan le premier, que quand tu es sur un footing, alors pas forcément sur des séances particulières, mais tu réfléchis à autre chose, tu t'évales et souvent tu peux solutionner des problèmes que tu as dans ta vie quotidienne.
Ah, mais ça, je crois que ça devrait être une démarche sanitaire imposée à tout à chacun. Donc soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours. Hein. Moi, je garde en mémoire, il y a un joli bouquin de Jean Genot, hein, je crois que c'est le Serpent des étoiles, où le héros est fatigué, il y a son copain qui vient le voir et qui lui dit « Si tu penses mal, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu ne sais pas quoi faire, marche, ça te fera du bien. »
Et voilà.
Et ben, ça dénoue pas mal de choses, le fait de courir ou de marcher, tout à fait.
L'anthropologie, c'est donc l'étude de l'être humain, les relations humaines, c'est ça qui te passionne et c'est aussi le sens même de ton action aujourd'hui. Johan, ce qui est intéressant avec Malek, c'est cette porte d'entrée de la course à pied pour toutes ces aventures finalement. Il l'a dit Malek, c'est une histoire de rencontre, de profil, de choix, parce qu'on fait tous des choix au quotidien plus ou moins importants. Mais la course à pied a été cette porte d'entrée pour Malek et c'est ça qui est magique et qu'on aime raconter d'ailleurs.
Ouais, la course à pied. Après, c'est vrai que voilà, il faut toujours. Je le dis toujours, mais l'histoire du dossard de Malek, elle est dingue parce que moi, dans mes coachings, je le dis souvent, il faut une petite carotte parce qu'effectivement, courir, c'est un gras. Il l'a dit, il a expliqué. Le football, je le dis souvent, mais le football, c'est un jeu, tu joues.
Exactement.
La course à pied, tu joues pas. Et même moi qui suis athlète de haut niveau, ça fait 25 ans que je cours, quand je reprends la course à pied, je vous jure que les 15 premiers jours, je ne prends aucun plaisir dans ma pratique. Je trouve ça dur, j'avance pas assez. Là, pour le coup, t'es pas dans tes pensées, t'es juste dans la souffrance. Et il faut passer cette petite étape. C'est que je sais que moi, ça dure 15 jours. Ça dure à peu près 15 jours où musculairement, cardiaquement, c'est dur et où j'ai pas envie. Et après, ça revient et après, bah, ça devient addictif. Et effectivement, cette carotte pour ouvrir et après, bah, la course à pied, c'est merveilleux. C'est ça, c'est une aventure. On l'a vu, bah, on parle tout à l'heure des 24 Paris. Mais voilà, j'ai participé aux 24 Paris et quel kiff de voir les gens te parler, discuter, échanger, parler de la même passion, courir ensemble. Et c'est et à l'arrivée, le ça, c'est quelque chose moi qui me marque sur marathon, c'est le bonheur qu'ont les gens d'être finisheurs de cette.
Tout à fait.
Tu sens qu'ils sont allés au bout et ils ont repoussé des limites que eux-mêmes imaginaient pas, tu vois. Et ça, c'est il y a que la course à pied, je pense, qui peut t'apporter cette sensation-là, ouais.
Et l'importance que cette pratique peut avoir et l'accomplissement d'un objectif dans ta vie personnelle, parce que c'est tout ça que tu racontes en fait,
ah,
Malek, et c'est aussi peut-être la genèse de ton projet avec ces jeunes.
Exactement. Bon, je rejoins tout à fait ce qu'évoque Johan, hein, la notion de dépassement de soi, hyper importante. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, autant dans l'ultra, on est dans le dépassement de soi, mais je ne suis pas dans une aventure solitaire, jamais. Toujours dans une aventure solidaire. C'est comme vous, dans le 24K, ce que vous avez raconté, les gars qui vous supportent, qui reconnaissent le podcast RMC Running, qui sont là. Donc, on sent qu'on est dans du solidaire constamment. On est porté par un groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on bascule du solitaire au solidaire. Et la question fondamentale dans la vie de tous les jours, c'est de se dire comment on bascule du dépassement de soi à l'accomplissement du nous, cette capacité à fédérer, à mobiliser un groupe. C'est ce que tu fais avec ton groupe sur Valence. Mmh. On y va ensemble. Pour finir, chacun à son niveau, mais on est ensemble, on ne court pas seul. Eh bien, moi, les 42, c'est ça. Hein. C'est cette capacité à basculer ensemble et que peut-être, moi, je garde en mémoire... bon, allez, on va un peu sortir du cadre, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai relu récemment, on va aller avec Montesquieu, hein. J'ai relu récemment le traité des lois avec tout ce qui se passe sur le plan politique. On devrait peut-être revenir au siècle des Lumières parce que les Lumières sont éteintes par les temps qui courent sur le plan géopolitique. Et Montesquieu disait quelque chose de sublime. Et pour moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans ma capacité à embarquer, à fédérer les mondes qui nous entourent. Il disait, pour accomplir de grandes choses, parce que faire un marathon, faire un 10 km, ça peut être quelque chose de grand pour n'importe qui, surtout quelqu'un qui démarre. Pour accomplir de grandes choses, disait-il, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas se placer au-dessus des hommes et des femmes. Il suffit tout simplement d'être avec. Comment être avec aujourd'hui? Voilà la grande question qui se pose. Et la course à pied. Tu peux courir avec plein d'anonymes. Tu n'es jamais seul. Tu es avec. Parce qu'on passe par le même chemin. Celle de la douleur, celle de la souffrance.
Bien sûr.
Et c'est ça qui nous anime.
Mais tu sais, le symbole de tout ça, et tu l'as forcément vécu, on l'a tous vécu. Johan est un coureur élite, mais je pense que même à son niveau, il l'a vécu. Ouais. C'est ce moment partagé avec quelqu'un que tu ne connais pas.
Exact.
Tu vas participer à une course avec quelqu'un que tu ne connais pas sur un 10, sur un semi, sur un marathon. Tu vas passer la ligne, tu n'as jamais parlé à cette personne.
Tout
et tu vas lui tomber dans les bras parce
dans
que vous
bras.
Avez partagé ce moment.
C'est
vous n'allez peut-être plus jamais vous reparler.
Tout à fait.
Mais ce moment, vous l'avez partagé, vous l'avez vécu ensemble, vous avez souffert ensemble. Et quelque part, ça soude alors que personne ne se connaît. C'est vrai que c'est assez marrant.
Ça,
dans
c'est
la
magique.
Course à pied. C'est un sport, comme tu dis, solitaire. Et dans ces moments-là, bah, tu te rends compte que tu arrives à te connecter avec les autres. Et ce qui est intéressant de raconter, donc allons-y sur ton projet. Comment ça naît tout ça? C'est pas la première fois que tu vas emmener des jeunes en difficulté sur l'épreuve d'un marathon. Tu avais démarré à Athènes en 2023.
Tout à fait.
D'ailleurs, tu n'avais jamais été aussi ému que sur la ligne d'arrivée. C'est ce que j'ai lu en
Bien
préparant
sûr.
Tout ça. Cette émotion collective de voir des jeunes accomplir quelque chose qu'ils pensaient impensable. Ton idée de base, c'est quoi? C'est de prouver à ces jeunes que lorsqu'on se donne les moyens de faire quelque chose, quand on se fixe un objectif, même si on part de rien, on peut y arriver et ça peut transformer sa vie.
Tout à fait. Tu as tout dit, Benoît, avec tes mots, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est de démontrer que dans la vie, d'où que je vienne, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il n'y a pas de fatalité sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une sorte de résignation généralisée. On est rentré dans une logique des fois de plainte. Alors, dans la vie, il ne s'agit pas d'être spectateur, mais d'acteur, être acteur de sa vie. Et je crois beaucoup à la loi du donner et du prendre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi, alors que je venais d'un quartier extrêmement dur, compliqué en Alsace. Et quand tu as des gens qui te tendent la main, quand tu as des gens qui te disent « je crois en toi », mais c'est la plus belle des paroles qui puisse exister. Et à un moment donné, se pose la question dans la vie de tout à chacun, est-ce que je suis un complice du mal ou est-ce que je deviens un ambassadeur du bien? Qu'est-ce que je fais à mon modeste niveau pour pouvoir apporter un peu de lumière en ces temps sombres? Alors ma pratique de l'ultra-marathon de l'extrême me donne une certaine crédibilité quand tu vas dans les quartiers compliqués. Parce que quand tu dis anthropologue...
Oui, ça met une barrière parfois.
Oui, ça peut faire peur. Ouais. Mais tu dis ultra-marathon, il y a le mot marathon, il y a la dimension sportive.
Il y a l'aventure
et donc tiens, ça interpelle.
Je traverse un désert, voilà. Je fais des choses. Ouais.
Donc je suis qu'un amateur éclairé, hein. Je m'entraîne presque comme un pro, mais je suis un amateur éclairé parce que c'est une grande passion. Hein. Et c'est l'ultra-marathon qui va me permettre de créer alors ces fameux 42. Hein. Et l'histoire des 42, pour faire bref, c'est 42 km. Je reviens sur marathon. 42 km pour 42 jeunes. Ça, c'est l'idéal.
Ouais.
Et j'espère, prochaine édition, on va arriver progressivement sur 42 jeunes, de 18 à 28 ans. Alors, on a eu 28 ans parce qu'il fallait calibrer dans l'association, mais aujourd'hui, on a des jeunes de 33 ans dans la deuxième édition.
Là, ils seront 25 pour New York.
Exactement. On était 18 à Athènes, 25 pour New York, parce que ce n'est pas le même budget. Des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, tu l'as dit, hein, des jeunes qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir des parents aimants ou bien situation compliquée, l'école où ça a été K1. Des jeunes qui ont allé jusqu'au bac, mais qui après se sont perdus également peut-être durant les études et qui se cherchent encore aujourd'hui en termes de stage. Bref, on va trouver des jeunes respectueux, c'est la base, mais qui sont en quête ou en conquête et en enquête de soi. Et des jeunes avec tout profil, hein, et quel que soit le polymorphisme des corps, hein, gros, gras, large, hein, on a des jeunes qui font...
Ça aussi, il n'en parle pas trop, Johan, du polymorphisme des corps.
Polymorphisme, non.
Oui, voilà.
Mais on comprend l'idée.
Voilà, vous comprenez l'idée. Hein. Ouais, non, mais je pourrais dire, on a des jeunes de plus de 85 kilos, 200 kilos.
Non, bien sûr.
Parce que le seul enjeu sur les 42, c'est de leur dire, alors, on va faire un marathon. Alors, vous imaginez la première réaction au début, beaucoup de doutes, hein, je ne pratique pas de sport. Et je vais faire un marathon. Donc, on a créé des partenariats avec les missions locales de France et de Navarre. Et on leur apporte, je dis « on » parce que là, je parle au nom d'équipe. J'ai démarré effectivement sur une feuille de papier. Après, très vite, j'ai besoin des autres parce que seul, je ne peux rien faire. Donc, je m'entoure d'une équipe, d'une team. Nous sommes aujourd'hui plus d'une dizaine qui m'accompagnent dans les différentes régions.
Et d'un soutien financier aussi. Parce que c'est
aussi,
important.
On va y venir. Bien sûr, sans eux, je ne peux rien faire. La base des 42, d'abord, c'est l'argent. Si je n'ai pas d'argent, je ne fais rien. Évidemment. Donc, je vais d'abord chercher les mentors, les dirigeants. Et à ces jeunes, nous leur vendons cette espérance folle en leur disant « Venez faire un marathon. Pas un 10, pas un semi. On attaque tout de suite sur marathon parce que ça claque, ça parle. 42 km, c'est mythique, 42 km. » Ça donne une résonance particulière. Et le message que je veux leur faire passer, et là, je vais parler sur le contrôle de Johan. Hein. Moi, les 42, j'ai deux grandes figures totémiques. Il y a Zatopek.
Ouais.
Donc voilà, le plus grand. Le grand. Voilà, exactement, Johan, la locomotive de Prague. Zatopek, il disait à ses enfants à la fin de sa carrière, si tu veux courir, cours une heure. Mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon, tu ne seras plus jamais pareil.
Exactement.
C'est ce qu'on leur dit. Si vous faites un marathon... Vous n'avez pas les parchemins diplômants, vous n'avez pas fait l'école. Et alors, on s'en fout. La clé de la réussite dans la vie, c'est les deux P. C'est ce que j'anime en anthropologie narrative. La patience, le marathon, c'est une école de la patience. Il faut de l'effort, il faut de la persévérance, il faut de la discipline. C'est du temps long. Ce n'est pas du jour au lendemain que je deviens marathonien. Donc, ils vont apprendre à se projeter sur un an. Ce qui n'est pas rien, se projeter sur un an pour une jeunesse.
C'est un an de préparation ?
Pratiquement, entre les 4 mois de recrutement et les 6 mois d'entraînement, on est sur un an. Parce que le recrutement, ça va permettre de travailler le mental, de savoir à qui on a affaire. Et la passion. À partir du moment où on y va avec engagement, avec cœur, on peut faire des grandes choses. Forcément. Et donc on leur dit, voilà, venez faire un marathon. Parce que s'ils mettent sur un CV, j'ai 20 ans, que j'ai fait un marathon... Là, c'est Athènes ou là, pour des jeunes qui viennent des différents territoires. Marathon de New York, à 20 ans. Moi, je suis recruteur.
Tu sais ce que ça représente en investissement,
exactement,
en effort fourni.
Et surtout, on va leur apprendre, ils n'ont pas fait l'école, mais on va leur distiller avec toute la team, avec des gens inspirants qui m'accompagnent durant les campus. On va leur apprendre les fameuses mad skills qu'on recherche dans le monde du travail aujourd'hui. Ténacité, abnégation, engagement, discipline que vous avez tous sur 10 km, qu'on a tous sur semi, sur marathon, mais que eux n'ont peut-être pas forcément, du fait de leur parcours, de leur trajectoire plus ou moins chaotique pour certains. Mais là, on leur donne le plus beau des diplômes. Marathon. Donc on travaille la dimension psychologique, l'estime de soi. Parce que l'estime de soi est touchée. Mais là, tu te dis, t'as fait un marathon, mais après la vie, ça va te paraître beaucoup plus facile. Et surtout, au-delà de la dimension psychologique, on va travailler la dimension également. Je travaille plein de dimensions avec ces jeunes. Hein. Ça, vous, Donc là, bravo. Là, je sais que tu prépares Valence. Hein. Il y a la dimension chrono que j'ai connue. Avec eux, on est dans une dimension ludique. Oui. On va être extrêmement humble.
Il n'y a pas d'ambition chronométrique.
Non, c'est hormis fini.
La ligne d'arrivée.
C'est la ligne d'arrivée, exactement.
Et connaissant le marathon New York, tu as bien raison. Parce que c'est pas là que tu vas chercher le chrono,
plus,
de toute façon.
C'est pas le plus facile.
Non, c'est pas
c'est
le plus facile.
Plus
bien sûr.
Il est beau.
Pourquoi New York, d'ailleurs? Parce que c'est le mythe.
Ben voilà, après Athènes.
Parce que c'est plus facile de convaincre un jeune d'aller faire le marathon de New York que d'aller faire le marathon de n'importe où.
Eh ben, il y a les deux. Dans un premier temps, moi, j'avais fait Athènes. Athènes, pour moi, c'était l'origine, l'alpha, comme on dit en grec. Alpha, alphabet, l'alpha. Et on a raconté l'histoire, d'où vient le marathon. Donc, tous les jeunes athéniens connaissent l'histoire de Philippides, ils connaissent l'histoire d'Échille, de Thucydide, d'Hérodote,
oui,
ils connaissent
pourquoi,
ces grandes
pourquoi
histoires.
Pourquoi le marathon fait 42
km, exactement, et la bataille de Marathon. On a fait l'alpha, et je vous dis, pour la deuxième édition, les Athéniens m'ont dit, Malek, ce serait bien de continuer. Moi, je crois toujours aux grèves, aux grands rêves. Et si je veux embarquer après des dirigeants, parce qu'il faut convaincre les dirigeants qui vont venir me financer, ça s'appelle les mentors. Tu vas dire à des mentors, on va faire le marathon de New York avec des jeunes, et vous serez avec nous. Putain, New York, ça va parler.
Bah oui.
Et c'est l'oméga, bien c'est sûr. La Mecque des marathons.
Bien sûr.
Donc j'y vois une continuité historique, j'y vois une continuité narrative entre l'origine et la fin, un peu la fin d'une histoire. New York, et tu as raison, et quand tu dis après à des jeunes, alors marathon, ils ont peur, mais tu dis New York derrière, oh purée.
Eh oui. Pour des jeunes en difficulté qui n'auraient peut-être jamais imaginé venir aller à New York ou aux États-Unis. Tu vois, je parlais effectivement avec la personne qui t'accompagne aujourd'hui pour ce podcast, qui me disait, il y en a certains qu'on a réunis qui n'étaient jamais venus à Paris, par exemple.
Bien sûr.
On pourra en parler des profils, on va en recevoir deux d'ailleurs.
Exactement,
dans un instant.
Tout à fait, très juste.
T'es jamais allé à Paris, on va t'emmener à New York. On va t'emmener à New York faire un marathon, c'est vrai que c'est complètement
fou. Ce qui est exceptionnel.
C'est sûr. Et juste avant qu'on continue là-dessus, je voulais faire rebondir Johan là-dessus, parce que tu dis beaucoup de choses intéressantes, c'est des sujets... On fait un peu un pas de côté aujourd'hui dans RMC Running, parce que c'est pas du sujet pragmatique.
Technique, hein,
mais,
oui.
Mais en revanche, ça fait partie des raisons. Tu sais, nous, on démarrait toujours le podcast par pourquoi tu cours, parce que c'est la question essentielle pour n'importe quel coureur, qu'on soit professionnel ou amateur. Oui. Mais ce qui m'intéresse, parce que c'est un aspect qu'on a rarement traité avec Johan, c'est Johan, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie de tous les jours, d'être athlète de haut niveau, de environ 17, 18, 19 ans jusqu'à aujourd'hui, t'as 40 ans, dans ta personnalité, dans ton caractère, dans ta discipline? Est-ce que ça a transformé ta vie? Est-ce que ça t'a apporté bien plus que les résultats sportifs, le succès et la notoriété?
Non, mais moi, ça m'a apporté une confiance en moi, mais tu ne peux pas imaginer, tu vois, quand t'es... Moi, j'étais quand même... j'étais un peu timide, tu vois. Je pense que si j'aurais été incapable de parler derrière un micro ou devant une caméra si je n'avais pas été sportif de haut niveau. C'était pas quelque chose que j'avais forcément en moi. J'étais un peu timide. J'aimais bien ma petite vie chez moi à la campagne avec mes potes que je connaissais, mais j'avais du mal à m'ouvrir à d'autres personnes. Tu vois, je restais un peu comme ça. Et le fait de découvrir la course à pied, de monter sur des podiums, d'avoir ces objectifs-là, de la persévérance, de la discipline, tu prends énormément confiance en toi et puis surtout on te donne confiance, on te dit Johan tu peux aller en équipe de France, Johan tu peux faire des podiums, et puis après quand tu vois que tu les fais, bah tu gonfles, et effectivement moi ça m'a vraiment transformé, la course à pied m'a transformé, je pense que je serais pas du tout le même homme, que ça soit sur le plan relation humaine, je serais beaucoup plus fermé, ça c'est une certitude que je le suis aujourd'hui, et en termes de, ouais je le dis, de confiance, de tout ce qu'il y a autour, j'aurais pas eu la même vie et j'aurais pas été dans mon... ça a totalement changé mon caractère. Clairement, ça, y a eu un avant et un après course à pied. Ouais.
Et tu vois, ce que j'aime avec Johan, Malek, ça fait 4 ans environ qu'on fait le podcast RMC Running. Et moi, je l'ai senti parce que quand on l'a recruté, entre guillemets, il venait d'établir son record personnel sur marathon à Paris, 2h09. Il avait l'ambition de Paris 2024 et tout. Et moi, j'ai senti au fur et à mesure du temps, alors forcément, on a tissé un lien d'amitié fort, mais ce basculement vers la transmission. Et je le sens beaucoup plus dans la transmission aujourd'hui que dans le côté perf, le côté isolé de son entraînement à lui et tout. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Donc c'est marrant aussi, nous, de faire un point d'étape là-dessus, Johan, parce que toi, je sens que ta personnalité évolue au fur et à mesure des années dans RMC Running. C'est assez marrant.
Ah, complètement. Après, c'est aussi le fait d'être en fin de carrière et de vouloir transmettre et d'échanger et d'être à fond là-dessus. Quand tu es dans le haut niveau, on t'apprend aussi à être égoïste. On t'apprend à penser à toi avant de penser aux autres parce que c'est ta carrière, parce que tu vois, il faut pas faire rentrer tout le monde dans ton cercle. On te ferme un petit peu. Et le fait de sortir un peu de ce carcan-là, de ce carré où on te dit pense à toi et où on s'occupe de toi en plus. C'est-à-dire qu'on te dit de penser qu'à toi et t'as tout plein de gens autour de toi qui s'occupent de toi. Tout le monde fait tout pour toi et toi, tu n'as quasiment rien à faire. Donc, effectivement, après, moi, maintenant, et ça fait quelques années maintenant, et honnêtement, c'est grâce aussi à ce podcast que je suis plus dans la transmission et d'essayer d'inspirer et de donner aux gens justement l'envie de courir et de se dépasser. Ouais.
Mais nous, on sent le plaisir qu'il a à le donner. Tu vois, c'est ça qui est fascinant aussi à raconter. Mmh. Si on revient dans le pragmatique, parce que Malek, ton projet est fantastique, emmener des jeunes à New York, tu vas emmener environ 50 personnes à New York pendant une semaine, tu vas pas te contenter du marathon, il y aura un vrai voyage culturel parce que voilà, vous allez faire plein de choses une fois sur place. Comment on convainc de financer tout ça? Comment on obtient 25 dossards pour le marathon de New York, qui est le marathon le plus prisé au monde? Comment t'as fait pour faire ça, qui est déjà un exploit en soi, parce que n'importe quel fan de course à pied a déjà du mal à aller chercher un dossard pour New York. Toi, tu m'en cherchais 25. Comment t'arrives à convaincre pour tout ça, alors? Voilà.
Donc, en tout, on va courir avec 45 personnes.
45 personnes 45, vont courir.
Voilà, il y a les jeunes, les 25. Ouais. Il y a la team.
Ouais, on est, les encadrants.
Voilà, les encadrants des 42. Hein. On est 7 personnes à courir avec eux. Et on a nos mentors, ceux qui nous financent aussi. Donc, on a pris un dossard pour eux, pour qu'ils viennent courir avec les jeunes sur l'asphalte et partager également un moment extrêmement fort. Parce que nos mentors qui nous financent, c'est... Donc, moi, j'ai un discours des 42. La dimension la plus importante, c'est la dimension socio-insertion professionnelle. Le marathon, c'est qu'un prétexte. Et ce qu'a dit Johan, je rejoins parfaitement en termes de confiance en soi, en termes de détermination, en termes... Ils apprennent. Moi, je cite souvent, on va faire un petit décalage, hein, mais... et c'est ce que je fais aux jeunes. Hein. Mmh. Je leur donne également des éléments culturels décalés. On n'est pas au-delà de la dimension sportive, du dépassement de soi du marathon, il y a également une dimension intellectuelle qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière un marathon? Alors, à l'époque des Romains, ils ne faisaient pas de marathon, mais il y a ce grand poète Catulle qui disait « Amat victoria curam », expression latine qui veut dire « la victoire aime l'effort ». On n'a rien sans effort dans la vie de tous les jours. Tout est question de travail. Si Johan est arrivé là, derrière le boulot qu'il a dû accumuler pour en arriver là, et souvent les gens ne voient pas tout le travail derrière. Et marathon, c'est pareil, c'est une école de la vie. Et le message qu'on veut faire passer à ces jeunes, l'effort, la pugnacité, la détermination, avec ça, on peut faire face. Et c'est ce message que je vends à mes dirigeants d'entreprise qui nous financent, qui, eux, ont besoin de recruter des jeunes qui tiennent la route, qui gardent le cap. Le marathon, c'est ça, on va garder le cap en dépit de la douleur, en dépit de la souffrance. À un moment donné, il n'y aura plus rien et ça va jouer dans la tête. Mmh. Et bien, c'est tout ça qu'on leur propose. Pour les dossards, je me suis inscrit il y a 2 ans, donc j'avais anticipé juste après Athènes, pour préempter un des dossards, 50. Donc j'ai pris 50 dossards. Je n'avais pas les tarifs.
Toutes ces belles phrases et ces citations, tu arrives à les dire en anglais pour convaincre l'orga de New York ou pas?
Ah, hélas, my tailor is rich, hein, comme dit de Funès. Je me débrouille en anglais basique, mais je n'ai pas la capacité.
Non, mais c'est un vrai défi d'obtenir tout ça. Hein. Bravo.
Ah, bien sûr, c'est au combat. Hein, ça dure. Au combat joyeux, parce que j'y vais avec la joie, l'envie, la conviction. Je vais avec des gens qui ont du cœur, des gens qui y croient et qui veulent... qui veulent également sublimer le réel et de se dire que dans cette vie, il y a encore moyen de faire de belles choses, et il y a une jeunesse qui veut s'en sortir. C'est surtout ça.
Voilà, et ça a réussi à convaincre l'organisation qui t'a délivré. Donc c'est
exactement. Et après, vous savez, on te donne 50 dossards, mais très vite, 6 mois après, ils te disent qu'il faut payer la compte 15%.
Oui, voilà, il y a le nerf de la guerre.
Le nerf de la guerre, il arrive très vite.
Et sans compter le voyage.
Le voyage, les avions.
Est-ce qu'il est hors de question de faire payer un jeune en difficulté pour son marathon?
Les jeunes, ils payent. Quand ils viennent dans l'association, ils payent tout de même 42,195 €. Oui, c'est symbolique.
Par principe.
Voilà, pour pas que ce soit gratuit, c'est par principe. Il y a une cotisation de 42,195 €.
Parce que c'est une sorte d'engagement, peut-être.
Aussi un engagement. Alors, c'est très modeste, 42 €. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne va pas payer plus? Mais certains sont en situation vraiment délicate.
D'accord.
C'est dur. Mais qu'ils payent quelque chose, histoire de dire, ils s'engagent. Et après, nous, on leur propose tout un accompagnement de rencontres, de joie, parce qu'ils rencontrent des dirigeants. Et les dirigeants, à la fin, ils s'engagent à les embaucher ou à leur trouver un job.
Ah, ça, c'est
important. La dimension socio-insertion professionnelle derrière. Okay. Comme ils ont refait un marathon, ou ils s'alignent sur marathon, ça leur ouvre les portes de pouvoir après s'insérer sur le plan professionnel. Et ça, c'est fascinant de dire. C'est des dirigeants qui ont des réseaux, qui connaissent du monde. Et ils m'ont dit, mais Malek, on va leur ouvrir des portes. Soit chez nous, si on peut. Ouais. Entreprise du BTP, j'ai pas besoin de diplôme. Mais j'ai par exemple la Banque de France qui nous suit. J'ai des grandes structures. Le Consuel, par exemple, eux, ils ne peuvent pas embaucher des jeunes qui n'ont rien, mais en tant que dirigeant, Malek, on connaît plein de structures qui ont besoin de différents profils, on va leur ouvrir des portes. Et ça, cette dimension-là, pour moi, est tout aussi importante que la pratique marathonienne.
Comment tu sélectionnes tes jeunes?
Avec du cœur. Non, mais c'est la clé, on en rigole, mais je crois que quand vous y allez avec du cœur, hein, les cœurs résonnent ensemble. Alors bien sûr, j'ai créé des partenariats avec des missions locales, donc je suis allé chercher les missions locales.
Parce que tu as fait l'effort de ne pas te concentrer sur un secteur géographique, tu as pris des jeunes de toute la France.
Au début, je t'avouerai, au démarrage, pour moi, c'était comme j'habite Paris, je me dis je vais rester sur Paris parce que c'est assez compliqué.
Ouais.
Mais très vite, quand je n'ai parlé, avant de recruter les jeunes, d'abord je recrute les mentors, il me faut de l'argent. Je ne vais pas aller voir un jeune, si je ne suis pas capable de l'assurer, on va partir.
Ouais, c'est
donc
ça.
La base, première, les mentors.
Pas de fausses promesses.
Non, jamais. Mmh. Et quand tu rencontres les premiers mentors, comme j'interviens partout en tant qu'anthropologue, médiateur, et ben certains mentors qui viennent de différentes régions, les mentors du Creusot, les mentors d'Alsace, ils m'ont dit « Malek, ton projet est génial, mais tes jeunes, ils viennent d'où ?» J'ai dit « De Paris ?» Ils m'ont dit « Moi, ça ne m'intéresse pas.
Ben » oui.
Comment tu veux que je les aide pour trouver un job ? Moi, il me faut des Alsaciens, je connais le tissu local. Et en plus, si je veux l'embaucher, il faut qu'ils viennent chez moi. Ton gars de Paris, il ne va pas venir habiter à Haguenau, il ne va pas habiter au Creusot. Donc très vite, ça a changé l'ADN des 42. Je dis, mince, donc il faut que je trouve des jeunes qui viennent des territoires des mentors, ce qui n'était pas prévu. Mais ce qui est fascinant, parce que ça m'a permis ensuite alors de mélanger dans les 42. Voilà peut-être le véritable combat des 42 pour moi, il se situe là. La France des couleurs et la France des terroirs. Donc je suis allé chercher des jeunes de l'urbain compliqué et du rural profond. Et ça, c'est fascinant.
Tu mélanges, pour grossir le trait, tu mélanges un jeune de banlieue et un jeune de la ruralité qui est en difficulté.
Exactement, parce qu'il y a autant de difficultés dans le rural, dans les diagonales du vide, que dans les quartiers. Quand on pense jeunesse compliquée, on pense toujours quartier. Non, il n'y a pas que ça. Alors, ils sont moins...
Qu'est-ce qui fait la différence entre un jeune et un autre quand tu recrutes ?
Nous, on va chercher, je dis nous parce que je recrute aussi avec Magda, elle m'a accompagné cette année, la sensibilité féminine est importante.
Autant de filles que de garçons d'ailleurs ?
Oui, on essaye de faire la parité, okay. C'est plus compliqué. On l'a pratiquement faite à Athènes, là sur New York, on aura 8 filles, sur 25, un peu moins, mais on a 8 filles extrêmement engagées, dont une maman de 4 enfants, célibataire, fascinant, comme quoi elle démontre par son exemplarité qu'on est capable d'y aller, comme ça lui permet de se remettre en mouvement et d'avoir les étoiles dans les yeux. Et ses enfants sont fiers de sa maman qui va partir faire le marathon New York. C'est Sana, moi. Je la cite parce que je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Mais on cherche surtout, je sais que quand on va les recruter avec les missions locales, je les briefe, on fait des entretiens collectifs. Après les entretiens collectifs, on fait des entretiens individuels. Mais on va aller chercher la qualité des qualités premières. C'est des jeunes qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas les codes, mais on va chercher le respect de soi. Pour le respect des autres. Parce qu'après, c'est une grosse colonie de vacances. Hein.
Bien sûr.
Il faut que je gère des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui veulent démontrer. Là, je ne sais pas trop quoi faire, je suis à l'arrêt. La vie, ce n'est pas d'être à l'arrêt, c'est d'être en mouvement. Il ne s'agit pas d'être spectateur, mais d'être acteur de sa vie. C'est tous les messages qu'on fait passer. Et le respect, c'est la clé. Et c'est ça qu'on va chercher. Et il y en a des jeunes qui veulent s'en sortir.
Comment tu t'assures de l'investissement des jeunes ? Tu peux dire oui à un projet.
Bien sûr.
Et les épreuves de la vie font que bah, tu lâches et puis tu te dis.
Exactement.
Bon.
Et la preuve sur cette édition-là, 25 jeunes, j'en ai perdu, façon de parler, parce que je garde contact avec eux. Hein. Quand on a commencé le processus de recrutement, on a les titulaires, comme dans un club de foot, et j'ai les remplaçants. Ouais. Ça s'appelle les suppléants. Et si les titulaires.
C'est assumé d'office.
Oui, exactement.
Tu viens, tu sais que t'es suppléant.
Tu viens, t'es suppléant. Alors les suppléants, la promesse, c'est de leur dire si un titulaire. Ne tient pas la route parce qu'il n'est pas présent dans les entraînements, tu rentres.
Ouais.
S'ils sont tous les titulaires tiennent la route, toi, suppléant, tu seras prioritaire, titulaire pour la prochaine édition.
Ok.
Et je leur vends déjà
voilà.
La prochaine édition. Et donc, ils se disent...
Il y a une lumière quand même.
Voilà, il y a une lumière. Et surtout, la plus belle des lumières, c'est de leur dire, vous allez rencontrer plein de jeunes d'autres territoires. Vous allez à Paris, vous allez rencontrer des dirigeants. Ils vont bénéficier du même programme, mais ils ne vont pas partir à New York. Et il se trouve que sur cette édition-là, ben voilà, j'en ai 7 qui n'ont pas répondu présent. C'est dur parce que tu te dis, qu'est-ce qui a fait que...
Alors, à quel moment tu prends la décision ? Un entraînement, deux entraînements, trois entraînements ratés ?
Oui, exactement. Il y a ça, déjà, c'est une alerte. Alors, on essaie de croire en eux. Il y a 2 mois d'observation. On essaie de voir s'ils arrivent à tenir la route. Hein, et après, à un moment donné, l'asphalte ne ment pas. Le marathon ne ment pas.
Tu les surveilles sur des applis, sur Strava, sur...
Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance. Alors, j'ai mon responsable coach, c'est mon grand frère, Farid, qui a mis en place Strava, histoire de voir les deux dans la semaine hein, s'ils s'entraînent. Après, on a les dimanches. On doit tous se retrouver et on court tous ensemble. Et les dimanches, c'est les sorties longues. Et là, c'est l'épreuve de feu. T'es là ou t'es pas là.
Ouais.
T'es présent ou t'es pas présent. C'est le vrai test parce qu'on part pour 3 heures, 4 heures, 5 heures.
Ouais.
Il faut être là. Et si t'es pas là,
comment tu les rassembles ? Parce que tu finances les déplacements, tu fais l'entraînement en région parisienne, ceux qui sont à Marseille, voilà. tu les montes ?
Non, ceux qui sont à Marseille. Donc comme j'ai des mentors à Marseille, j'ai la team à Marseille. En Alsace, j'ai mes référents de la team 42 plus les mentors. Sur Chalon, c'est pareil. Et en région parisienne, on est là. Alors moi, je tourne dans les différentes régions parce que je tiens à aller voir les différents jeunes
bien sûr.
Quand je peux. Mais après, on court en même temps parce que j'ai mes référents. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une team. C'est un collectif qui avance. Et chaque dimanche, on part tous en même temps à 9h dans les différentes régions. Et c'est marrant parce que voilà, après, on envoie par WhatsApp les photos, ouais, et l'émulation qui se met en place. Et c'est...
T'as des amitiés qui naissent ?
Bien sûr qu'il y a des amitiés qui naissent. Et je crois que la vie, c'est que ça. Ouais. Le plus beau des cadeaux, la vie, c'est que des rencontres. Et je crois que là, on est entre nous, mais pour moi, c'est mon plus grand ultra-marathon d'extrême. C'est plus fort que le désert. C'est plus fort. C'est plus dur que le désert, parce que là, je ne maîtrise rien. Va piloter, va manager des jeunes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Et tu es là, derrière, toujours à mobiliser, à croire en eux, et ils te redonnent et ils te transforment. Non seulement, j'ai beaucoup aimé ce qu'a évoqué Johan quand il a parlé de transformation par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein, l'homme qu'il est. Et ben pour ces jeunes, c'est pareil. Ils sont en totale métamorphose parce qu'ils basculent du confort à l'effort. Ils sont en train de basculer de la négligence à l'exigence. Et ces jeunes nous transforment. Moi, je suis complètement transformé par eux.
Quand il y a un jeune qui sort du cadre et qui arrête, tu le vis comme un échec personnel ? Ou tu te dis, il y a des raisons qui font que c'est peut-être pas le moment, peut-être pas les bonnes conditions réunies.
Il y a les deux. Faut être honnête. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, hein, donc ça m'interpelle beaucoup. Parce que c'est une vraie question.
Ouais, bah c'est sûr. Bah, on voit et l'émotion que tu ressens, là, ça prouve tout l'engagement et la responsabilité que tu mets dans ce projet. C'est vrai que, humainement, ça doit être très dur de voir quelqu'un se mettre sur le bas-côté de la route alors qu'on est embarqué dans un projet collectif comme celui-là.
Donc, je suis toujours en questionnement, en interrogation. Qu'est-ce qui a fait que... Tu poses une bonne question de la temporalité, j'y crois beaucoup. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Est-ce que je n'ai pas trouvé les mots ? Est-ce qu'on n'a pas su ? Après, j'ai les suppléants qui sont hyper contents parce qu'ils rentrent dans la danse. Mais je fais tout pour ne pas rompre les liens avec les anciens. Donc, ceux qui ne sont pas sur New York, on leur a proposé de rebasculer sur le marathon de Paris pour l'année prochaine. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts pour plein de raisons. Mais c'est dur parce que tu as envie que tous ces jeunes qui sont là au démarrage, qu'ils arrivent au bout.
Bien sûr.
Mais on va y arriver avec ceux qui sont là et ça, c'est fabuleux.
Johan, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, tout ce projet ? Est-ce que tu es convaincu, ravi ? Est-ce que tu es émerveillé du travail mis en place par Malek ?
Ouais, je le félicite parce que je suis vraiment émerveillé et bouleversé par ce qu'il fait parce que c'est merveilleux. C'est vrai que tu vois des... Le sport, c'est pour moi le seul vecteur social où, bah, tu meurs sur la ligne d'un marathon. Tu peux avoir le PDG d'une entreprise de 50 salariés, un mec au chômage et un jeune de 18 ans, tu vois, sur la même ligne et qui vont fournir le même effort et qui vont se parler sans aucun problème et sans barrière, tu vois. Et ça, il n'y a que le sport. Et après, le sport pour les émotions. Bah, on parlait tout à l'heure de joie sur la ligne d'arrivée, de confiance en soi, mais c'est vrai que moi, je pense que tous les jeunes, on va en avoir tout à l'heure, mais quand tu rentres de ta sortie longue le dimanche, que tu as fait 3-4 heures et que tu te poses dans ton canapé à midi, et tu as une sensation de fierté allé, de te dire, voilà, je mets les choses en place, je le fais avec passion, avec amour, je suis claqué, je suis déglingué. Mais purée, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que j'aime ça et qu'est-ce que ça me sort de mon... Je découvre un nouveau moi, quoi, presque, grâce au sport. Et ça, je pense honnêtement qu'il n'y a que le sport qui peut te... Alors après, moi, je ne suis pas assez culture, art et tout, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que le sport qui peut t'amener vers... découverte de ton corps comme ça au plus profond. Ouais.
Et puis nous, ça nous ramène aussi à notre petit niveau, entre guillemets, de ce qu'on met en place dans les prépas marathon, semi-dica. C'est vrai qu'on les multiplie aujourd'hui, mais c'est là où on prend le plus de plaisir, Johan. Là, l'opération qu'on fait à Valence avec des profils très particuliers, mais ce qu'on a fait sur Paris notamment, et en entendant Malek, moi, c'est ce dont je me rappelais, c'est toutes ces personnes, mine de rien, au fur et à mesure des années qu'on a accompagnées, tous ces profils différents, ces personnes qui ne se connaissaient pas, qui créent un lien avec une prépa marathon. Moi, je pense à la prépa marathon de Paris, où on avait Mathieu, notre ambulancier de nuit, Lucie, la future mariée. On avait tout ça, tu vois, toutes ces personnes qui étaient engagées. Hélène, qui allait chercher un record, mais qui court dans son coin avec son enfant en bas âge. Enfin, Mariette, qui était inscrite par son frère. Tout ça, c'est des histoires qui s'entremêlent. Comme disait Malek, ce sont des rencontres, personnes qui ne se seraient jamais rencontrées auparavant et qui aujourd'hui ont créé un lien grâce à la course à pied. Dans un instant, on parlera du socle d'entraînement pragmatique aussi. Malek, comment tu les entraînes, comment tu mets tout ça en place. Mais on va accueillir un premier jeune qui est avec nous, c'est Aman, qui nous rejoint. Salut Aman.
Salut, ça va, très bien.
Eh ben écoute, sois le bienvenu, Aman. Le grand Malek est à nos côtés, donc il t'écoute. Attention à ce que tu dis quand même.
Ah oui, c'est sûr.
Salut Aman.
Salut Malek, ça va ?
Très bien, très honoré de t'entendre, Aman. De
Aman, Marseillais, travailleur intérimaire, pardon, c'est bien ça, Aman ? Toujours en quête de boulot à Marseille ? Ouais.
Toujours. Bon.
On peut accueillir Baptiste, qui lui est de Lyon et qui nous rejoint aussi. Salut Baptiste.
Bonjour, est-ce que tout le monde va bien ?
Ouais, super. Ouais, Baptiste, un peu plus jeune. Baptiste est né en 2007. Tu es encore jeune étudiant, donc voilà, c'est un profil encore...
Un autre profil.
Encore différent. Bah, les gars, on veut votre ressenti sur cette magnifique aventure pour vous. Là, on est en plein cœur de préparation. Aman, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, comment tu as pu intégrer cette aventure et comment tu la vis au quotidien ?
Alors moi, en fait, c'est très simple. C'est avec la mission locale que je suis en contact depuis mes 16 ans.
Ouais.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant toute mon adolescence, j'ai fait que du n'importe quoi, des épreuves, des hauts et des bas, de tout et n'importe quoi. Et ensuite, vers mes 16 ans, 17 ans, c'est là que j'ai su remonter la pente, commencer à travailler, etc. Et j'ai toujours gardé un lien avec la mission locale. Donc, eux, ils savent que niveau sport, niveau endurance, etc., dans la vie, ils savent que je suis très, très motivé. Donc, un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Bon, ben, il y a un bon projet pour toi, on te laisse voir ce que c'est. » Et puis après, j'en ai parlé avec Malek et puis j'étais franchement... Moi, de base, je n'étais pas prêt pour aller à New York car il y avait d'autres jeunes. Mais moi, ce qui me
faisait... T'étais suppléant, Aman, alors.
Suppléant,
c'est
ouais.
Ça. Voilà, okay. C'est ça.
Okay.
Mais moi, en fait, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est d'avoir juste un groupe et de changer d'environnement. Parce que ce groupe-là, c'est rien à voir de mon...
De ton quotidien.
Avec des chefs d'entreprise,
oui.
des gens qui ne sont pas forcément riches, mais qui sont, on va dire, qui sont aisés, qui peuvent se dire, on ne va pas rester avec eux, vous comprenez ?
Ouais. Donc,
franchement, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'il y a... que vraiment c'était le partage, c'était voir ce que c'est. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à courir avec eux, j'ai vu que chacun était là, pas que pour le sport, c'était vraiment pour un moment de partage. Et ça m'a, et en fait, ça m'a rappelé la France d'avant. Vous savez, quand nos parents étaient là, etc., je sais que c'était vraiment dans le partage, tout le monde se connaissait.
La communion, la fraternité,
voilà. Ouais. Et ça, en fait, petit à petit, ça se perd. Quand maintenant on court, c'est rare que les gens nous disent bonjour alors qu'ils ne nous connaissent pas. Quand on fait du vélo, etc., c'est rare que les gens nous disent bonjour. Et là, j'étais avec un groupe, on ne se connaissait pas, mais chacun voulait apprendre de l'autre. Et c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir. Et du coup, moi, je vis que pour ça. Je vis que pour la communication, le partage. Franchement, tout ce qui est bonheur, moi, pour moi, le vrai bonheur, c'est ça, c'est le partage, parler avec les gens, apprendre, mais tout ce qui est argent, voiture, etc., ça c'est éphémère, mais vraiment ce qui reste dans le cœur, c'est ce qu'on partage avec les gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas aussi. Et puis après, ben, on a fait les entraînements, etc., mais moi ce que j'avais comme problème, c'est que j'aime trop travailler. Donc du coup, comme j'aime trop travailler, j'étais tout le temps au travail, je demandais des heures supplémentaires, donc moi, il fallait que j'ai un cadre qui me dise que Aman, faut que tu te positionnes à tout prix, tu veux venir ou pas. Donc un jour Malek il m'a appelé, il m'a dit bon c'est simple, là il y a une place, tu veux prendre ta place oui ou non? Oui. Donc là il faut que tu te mettes sérieux aux entraînements, il faut que tu fasses un choix, on travaille tous mais il faut faire un choix, soit tu arrêtes un jour de travail pour venir courir avec nous et puis ensuite on va à New York, etc., soit ben tu pourras pas. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé encore plus parce que ça m'a prouvé qu'ils pouvaient croire en moi.
Ouais, je comprends. Et est-ce que ça déclenche quelque part une responsabilité chez toi ? Tu t'engages dans le projet vis-à-vis de Malek, vis-à-vis de tout l'engagement de toutes les personnes que tu rencontres, avec qui tu sympathises. Est-ce que tu te sens responsable de ça ? Est-ce que c'est ça aussi qui te motive à y aller, à t'entraîner ?
Ah, franchement, moi, je prends beaucoup conscience qu'on a des mentors qui font ça bénévolement. Il y a beaucoup de personnes qui sont là bénévolement. Si vous saviez le nombre d'heures, ça dépasse les 4000 heures bénévoles. En France, en 2025, 4000 heures bénévoles, c'est trop. Donc franchement, quand moi, je vois des gens qui sont engagés gratuitement et qui me disent « Aman, on croit en toi ben, », automatiquement, je me sens responsable. Et en plus, comme il y a d'autres jeunes, je sais que je peux être un bon petit moteur, comme eux aussi peuvent être un bon petit moteur pour moi. Donc... C'est ça qui me... Bon. Je devais être responsable par là, oui.
Passons à Baptiste. Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Toi, tu es un peu plus jeune. C'est peut-être un peu plus dur aussi de s'engager dans ce type de projet quand on est plus jeune, parce que là aussi, c'est un saut dans l'inconnu. Est-ce que tu faisais du sport ? Est-ce que tu aimais courir avant ? Ou est-ce que c'est vraiment ce projet qui t'a plongé dans la course à pied ?
J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été sportif, etc. J'ai fait du basket. Enfin, je fais du basket, j'ai fait du foot. J'ai fait plusieurs sports et en plus, j'ai mon père qui s'est mis à courir depuis le confinement avec le Covid. Donc, il m'a amené 2-3 fois à des courses, etc. Donc, je n'étais pas novice dans ce milieu. Mais en fait, le fait que ça soit en collectif et comme comme Malek le dit si bien, passer d'un sport individuel à un sport collectif, c'est une toute autre épreuve. Et accompagné par autant de personnes, etc., c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait. Donc, il faut le remercier du fond du cœur. Et ce qui se passe, c'est que je suis le deuxième plus jeune du groupe entier. Et en fait, au départ, j'étais même pas sûr de m'engager, vu que j'avais peur au niveau de la fac, etc.
Ouais.
Vu que j'allais me lancer en licence, j'avais peur que ça tombe sur des partiels, que je loupe des cours, etc. Mais en fait, mes parents, ma famille, mes amis et même le groupe des 42, ils ont fait. Et c'est une fois dans ta vie que tu pourras faire le marathon de New York. Si tu le fais pas maintenant, ça se trouve, tu découvriras pas des opportunités parce que Malek, Magda, etc., sans tous les citer, ils font découvrir des choses, ils font bien découvrir des personnes qui peuvent ouvrir des voies grandioses. Donc, au final, je regrette pas du tout d'avoir de louper une semaine de cours bientôt pour pouvoir faire l'aventure avec eux.
Juste Baptiste et Aman, allez-y mollo sur les compléments, vous n'allez pas me le faire pleurer jusqu'à la fin de l'épisode, s'il vous plaît. Donc gardez ça pour la fin. Baptiste, je ne veux pas rentrer dans c'est pas du voyeurisme ou quoi que ce soit, mais comment toi tu te retrouves dans ce projet-là ? Quelle est ton histoire de vie et qu'est-ce qui fait que malheureusement, si jeune, tu te retrouves en difficulté ? Tu as 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Baptiste ?
En fait, moi... j'ai été approché par l'espace jeunesse de ma ville, à Saint-Priest.
Ouais.
Et en fait, j'ai tout le temps été actif avec eux, etc. Et moi, j'ai un parcours... j'ai pas un parcours comme les autres, c'est-à-dire que je ne suis pas en difficulté, etc. Mmh. Mais c'est l'espace de ma ville, vu qu'il y avait déjà eu la première édition avec Athènes et que ça s'était très bien passé avec deux jeunes de Saint-Priest.
Okay.
Et bah, Farid, du coup, le frère de Malek,
qui est notre coach,
a décidé de contacter... l'espace jeunesse, oui, c'est notre coach exactement, il court toutes les semaines avec nous. Et il a contacté l'espace jeunesse, qui m'a recontacté derrière. Et en fait, j'ai un peu forcé, entre guillemets, je lui ai envoyé un message tous les mois en disant « j'aimerais juste avoir une réponse, même si elle est négative, c'est pas grave ».
Et en fait, c'est bien ça, la persévérance, ouais, Baptiste,
c'est
bien
ça,
vu.
Ça, voilà. ça marche.
Bravo.
Exactement, la persévérance, et du coup, ça a payé. Et j'ai eu le droit à un rendez-vous avec lui avant de valider... mon inscription dans le parcours.
Bon, magnifique. Parlons d'entraînement, les gars, Aman, Baptiste, parce que c'est sympa le côté philosophique de la chose, etc.
Mais il y a un marathon à courir.
Voilà, il faut borner pour aller faire 42 bornes à New York et pas trop souffrir. Moi, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Je vous le dis d'avance, vous allez souffrir. Donc, préparez-vous psychologiquement. Mais en revanche, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Baptiste, tu as fait le bon choix parce que l'ambiance que tu vas ressentir ce jour-là, tu la ressentiras plus jamais ailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc bravo pour ce choix. Comment ça se passe, les gars, les entraînements? Aman, comment tu t'entraînes? Combien de fois par semaine? Est-ce que tu souffres ou est-ce que ça va, tu maîtrises?
Les entraînements, franchement, moi, j'aime bien souffrir. Après, bon, on a un groupe spécial, on a des mentors qui font le travail avant, donc ils nous disent, bon, demain, on se rejoint, et puis c'est 2 fois par semaine, minimum. Après, s'il y en a de temps en temps qui font des courses personnelles, ils envoient un petit message pour dire, bon, ok, chaud. Mais c'est vraiment convivial, lui. Franchement, ça fait beaucoup plaisir. En plus de ça, il y a quelques mentors qui peuvent ramener d'autres amis à eux. C'est vraiment... Ouais.
Les gars, comment vous fonctionnez? Vous fixez un objectif de temps quand même ou non? Vous voulez juste franchir la ligne d'arrivée? Aman, est-ce que tu as un objectif?
Franchement, moi, je dis la vérité. Moi, c'est que finir. Moi, la vérité, franchement, c'est
bravo, ce projet-là. Bravo, Aman.
C'est déjà beau. Hein.
Ce projet-là, c'est vraiment un trésor que personne ne peut vraiment réaliser. Moi, je parle avec des policiers de la BST 03 de Marseille.
Ouais.
Je leur ai parlé de ce projet-là. Je vous dis la vérité, comment ils m'ont regardé, mon diamant. On veut que tu ramènes juste la médaille.
Ah bah oui.
Moi, c'est même pas le temps. C'est même pas le temps, etc. C'est vraiment que la médaille. J'ai des gens du quartier, des gens de tout le monde, des gens de la mission locale, des gens de Pôle emploi. Et on veut que la médaille parce que ça, en fait, c'est pas qu'une course.
Mais non.
C'est, ça prouve que tu peux le faire, tu peux t'engager, tu peux te surpasser. Et c'est ça, en fait, la vraie médaille. Donc, moi, le temps, je ne regarde pas du tout le temps. Franchement, c'est que la fin. Je veux terminer les 42 km. Après, bon, en courant, parce que c'est ça le plaisir aussi. Mais...
non, mais c'est bien. T'as bien raison. Et ce sera déjà un magnifique défi accompli quand tu franchiras la ligne d'arrivée. Baptiste, est-ce que tu as un objectif, toi ?
Ouais, personnellement je me dis qu'en moins de 5 heures, c'est réalisable pour ma part.
Ouais.
Je sais pas, je vais être déçu parce que je vais pas être déçu en ayant la médaille, mais je vais avoir un petit pincement au cœur parce que j'ai annoncé à tout le monde, etc., que j'allais le faire en 25 heures, donc il faut un minimum assurer
la pression, etc. Maintenant.
Et là, tu es en train de le dire à toute la France, hein. Je veux pas te mettre ta pression,
France,
mais.
Cool, ouais, d'accord.
Non, je pense que ça reste possible, ça reste dans mes cordes, etc. Au niveau de l'entraînement, du coup, on est souvent avec Farid. Vu que Farid, on habite juste à côté. Donc, nous, c'est un entraînement qu'il nous concocte pour tous les dimanches où il nous fait bien souffrir. Et ensuite, c'est un entraînement individuel par semaine, normalement, pour tout le monde. Et en plus, moi, du coup, j'ai un entraînement de basket en plus chaque semaine.
Ok, bah c'est bien. Tu as le temps de t'entraîner un peu et de pouvoir pratiquer différents sports et de rester comme ça motivé pour ce beau projet. Écoutez, on vous félicite. T'es encore ému quand tu les entends parler, forcément, à chaque fois, Malek, parce que ça te fait quelque chose. Là, on rentre dans le concret. Là. Ce sont de vrais témoignages. Oui. Aman et Baptiste, tu sais qui c'est, tu connais leur parcours.
Bien sûr, je les aime. Et j'aime tous les jeunes, mais Aman, Baptiste, vraiment, bravo, bravo, bravo. Fier de vous.
Bravo les gars.
Merci.
Alors,
merci.
Moi, je veux pas m'engager parce que Malek vous l'a dit, c'est pas important de faire. Enfin, c'est important de pas faire de fausses promesses pour vous et tout. Mais nous, sachez qu'on soutient une cause complètement différente. C'est un ami d'RMC Running qui réalise un magnifique défi. C'est Dorian Louvet qui fait les 7 marathons majeurs la même année en moins de 2h30. Ouf, donc voilà, Dorian est une personnalité des réseaux sociaux, etc.
Ah, ouais.
Il organise un run communautaire la veille. Donc je pense qu'on va essayer de vous mettre en contact si jamais vous voulez participer à son run communautaire. On va lui dire à Dorian et lui sera ravi de vous accueillir. Il est le premier à appeler comme ça au rassemblement des troupes françaises à l'étranger. Donc comme ça, il sera ravi de vous accueillir. Malek, je ne sais pas si ça peut rentrer dans votre...
Monsieur.
Eh oui, c'est ça aussi.
Monsieur, moi, c'est ça que j'aime. C'est que les bonnes choses attirent les bonnes choses. Toujours.
Tout à fait.
Toujours.
Oui.
Et ben voilà, c'est sûr.
Et même son projet de faire 7 marathons d'affilée, c'est une grande histoire et... Ça promet quelque chose de dingue.
Malek, tu peux l'ajouter au programme, ça, ou pas ?
Je vais regarder, mais on va se mettre en lien.
C'est samedi matin, a priori.
Samedi matin. Okay, voilà. On va voir ça.
Donc, nous, on l'aura juste après. On va débriefer avec lui son marathon de Chicago qu'il a fait en 2h25. Et comme ça, on va lui parler de tout ça et lui dire que ça, si ça l'intéresse. Merci, en tout cas, d'être venu, Baptiste et Aman. C'était super de vous avoir. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Merci, Aman, Baptiste. Bravo.
Ouais, un grand bravo, un grand merci. Et puis, juste avant de passer au bon plan avec toi, Malek. T'en as qui se prennent au jeu, qui ont un vrai objectif sportif comme ça, qui s'y mettent, qui se révèlent un peu sportivement.
Bien sûr.
Des objectifs concrets et solides. Ouais.
Alors nous, moi je reste extrêmement humble. Il faut être humble devant l'asphalte hein, parce que t'as beau te préparer, tu sais jamais ce qui va se passer. Donc c'est pour ça l'objectif premier, c'est finir. Parce que finir, c'est réussir. Et après, il y en a qui commencent à se prendre au jeu, qui veulent absolument courir derrière un chrono, alors que moi, je parle pas de chrono, juste finir. Mais en même temps, après, je vais respecter leurs aspirations, leurs rêves. On a des gazelles dans le groupe, c'est clair. Des gens qui se sont révélés extrêmement talentueux. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont pouvoir courir en moins de 5 heures pour certains. Et on a les plus lents, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et alors, mais l'enjeu, c'est d'arriver au bout. Et le plus beau des cadeaux, c'est, je vois, pour les Athéniens, et déjà même là, pour l'édition new-yorkaise, on a un ou deux jeunes comme Gassen, le Marseillais, qui m'a dit, Malek, après New York, je fais Paris. Ah bon, attends, d'abord New York. Mais déjà, ils se projettent.
Ouais.
Et on a des jeunes qui continuent. Moi, je vois sur les Athéniens, on a deux jeunes qui...
Ouais, parce que tu as un peu de recul, ça fait 2 ans. Donc tu
voilà,
vois un peu
et il y en a... Alors, il y en a qui restent sur 10, parce qu'ils ont vu que tout de même...
42, c'est long.
C'est long et ils ont découvert des muscles qu'ils ne soupçonnaient pas.
Ouais, c'est ça. Donc, ils pas voulu effrayer trop Baptiste
voilà,
et Aman,
non, mais, pas, mais voilà, ils vont se rendre compte. Ça, ils vont avoir un diplôme en sensibilité corporelle voilà, accélérée. Exactement. Parce que là, on découvre des muscles qu'on ne soupçonne pas.
Ouais.
Exactement, ouais. Johan. Mais ce qui est beau, c'est que je veux voir certains jeunes qui continuent le marathon.
Ouais, ça,
et là, je dis pur et total respect. C'est beau parce que le marathon, c'est très exigeant à enchaîner. Et là, on verra pour les New-Yorkais. On va les retrouver avec un campus de célébration au mois de février-mars. On va tous se retrouver pour célébrer tout ça et préparer la dimension socio-insertion professionnelle. Et ceux qui veulent continuer, on sera là avec eux pour les aider à les inscrire sur d'autres marathons.
Tu sais déjà, toi, avec qui tu cours le jour J ? Comment tu vas t'organiser ?
Pas encore, je verrai ce week-end, on a une sortie de 30 km, c'est la dernière grosse sortie dans toutes les régions, on est sur une base de 25-30 en fonction des jeunes, en fonction des sensibilités, mais je sais que moi j'irai courir avec les plus lents parce que ça va jouer au mental, donc il faudra accompagner.
C'est là où ils ont besoin de soutien.
Voilà, donc ceux les plus rapides, on a des mentors qui vont les suivre, les moyens également, et je pense que je vais aller avec, pour être présent, leur apporter les mots, leur apporter la joie et donc partir sur une base de 7 heures.
Ah oui, bah c'est ça, c'est le jeu.
C'est le jeu.
Le magnifique projet donc, de Malek qu'on a reçu aujourd'hui. On est vraiment ravis et on est content de mettre en avant ce beau projet des 42, 25 jeunes entre 18 et 33 ans en difficulté que tu vas emmener au marathon de New York. Ça représente 50 personnes. Le projet d'une vie. Malek Boukherchi, merci, reste avec nous. Tout de suite, on fait gagner des cadeaux d'ailleurs dans RMC Running.
RMC, le bon plan matos.
Avec une marque qui va être pas mal sollicitée vu que les mauvais jours arrivent, malheureusement, c'est comme ça. Mais lui, au moins, il va faire son chiffre d'affaires là-dessus. C'est Ludovic Tepin de Gorewerk avec nous. Bonjour Ludovic.
Ouais, bonjour l'équipe.
Sois le bienvenu, on est ravis de t'accueillir. Grosse période pour Gorewerk là, j'imagine. Là. Ça y est, on va ressortir les vestes imperméables, les collants, tout ça, les gants, les bonnets, tout ça, ça va ressortir, ça y est.
Ouais, effectivement, on sent que tu as une sensibilité au commerce.
c'est pas si dur. Hein.
C'est effectivement la grosse saison qui a démarré déjà, d'ailleurs.
Alors, vas-y, parle-nous un peu de l'évolution de Gorewerk. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont en place pour l'instant ? Nous, ça fait plusieurs fois qu'on te reçoit. C'est vraiment une marque très pointue, justement, sur ce domaine-là. Les vestes imperméables, on a eu la chance de les tester. C'est vraiment hallucinant. Quand il pleut, vous êtes très bien protégés. Le but, c'est ça, c'est de toujours conserver cette grande technicité d'apporter un produit à celui qui l'achète qui est très performant et qui va tenir la route sur la longueur.
Ouais, effectivement, et spécialement cet hiver là, on arrive depuis le début du mois là avec un programme sur parce que la problématique quand les temps deviennent froids et humides, en fait la problématique c'est la balance entre l'isolation et la respirabilité. Et donc là, le lancement en ce début de mois, ça a été le lancement de la veste thermique Concurve avec deux marques ingrédientes importantes. Donc la première, c'est le nouveau Windstopper by Gore-Tex Lab. Et avec une autre marque ingrédient qui vient s'ajouter en fait dans cette veste, c'est les doublures Primaloft très légères et extrêmement respirantes pour justement pouvoir monter en intensité malgré le froid et garder une veste avec un confort intérieur qui soit toujours équivalent.
C'est ça, la légèreté, en plus l'imperméabilité et le fait de conserver la chaleur que, malgré tout. C'est celle qu'on fait gagner aujourd'hui d'ailleurs, hein, je te remercie, c'est la veste Concurve Insulated, donc c'est ce programme-là, c'est la légèreté. Est-ce que tu peux nous parler des coloris aussi qui sont disponibles sur vos sites internet ?
Ouais, l'idée en fait, juste pour refaire juste un petit point, c'est aussi le fait que les vestes sont extrêmement bien coupées. Et donc sur les coloris qui arrivent cet hiver, donc il y a le Tech Beige que toi tu as déjà eu, je crois, sur tes vestes précédentes. Il y a la Mystique Grey qui arrive, il y a forcément le noir qui reste un classique et qu'il faut avoir dans les gammes. Donc voilà, et surtout trois programmes de vestes un peu différents, pas différents, mais en tout cas une sans capuche, une avec capuche et une en format gilet pour ceux qui ne souhaitent absolument pas avoir de manches.
Voilà. Je te pose toujours la question, mais évidemment ça a un coût, ce sont des vestes assez chères, mais la durée de vie, est-ce que tu peux nous en parler ? Une veste, quand on l'achète, elle peut nous durer combien de temps alors ?
Ouais, le gros travail de Goreware depuis toutes ces années, c'est de rendre les vestes. Hein. C'est pour ça qu'on prend pas mal de coloris intemporels. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Coloris intemporels, et ça permet de garder. L'idée, c'est quand même de garder ces vestes 4, 5 ans, 6 ans si on les entretient correctement, si on les lave régulièrement. Ouais. C'est vraiment des produits qui sont faits pour durer. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur les coupes, de telle manière, quand vous achetez un très joli costume, en fait, vous le gardez plusieurs années d'affilée parce qu'il est très bien coupé. Il est coupé à moment. Mensuration. Et Goreware, c'est exactement le même, la même position, mais dans les vêtements techniques de sport. Quoi.
Alors, vrai débat que j'ai eu avec mon ami Nasser Bouani, que je salue. Comment on entretient une veste ? Est-ce qu'on lave la veste à la fin de chaque footing ou est-ce qu'on attend 2-3 footings avant de la mettre à la machine à laver ?
Alors, en fait, y a une vieille théorie qui dit que les purs coureurs, il faut très peu laver ses produits.
Il y a l'ancienne, la théorie, alors, ça me rassure.
La théorie tombe à l'eau à partir de ces dernières années, où effectivement, il faut laver les produits plus souvent pour la simple et bonne raison que l'ensemble des produits que vous utilisez dans le running aujourd'hui ne contiennent plus ce qu'on appelle de particules de fluor éternel qui restent en fait dans la nature, qui permettaient auparavant de contrer l'effet de la pollution, du côté gras de la pollution. Donc aujourd'hui, comme il n'y a plus, c'est ce qu'on appelle ces PTFE et c'est très bien pour l'environnement. Par contre, il faut laver ses vestes plus souvent.
Ok, voilà. Tu perds pas l'imperméabilité en lavant régulièrement ta veste, c'est ça
Non. 30 degrés, ce que vous faites, c'est 30 degrés, programme court, on la laisse bien sécher dans sa douche, dans sa baignoire, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est la mettre au-dessus d'un point de chaleur, un radiateur, l'hiver, etc. Ça réactive aussi la déperlance. Et puis après, au bout de peut-être un an et demi, deux ans, c'est intéressant de la laver aussi avec des produits qui sont déperlants et qui réactivent encore cette déperlance extérieure.
Et voilà, en plus, vous avez les conseils d'entretien. Magnifique. Ah oui. Merci Ludovic d'être venu. Et encore une fois, merci beaucoup pour ces produits mis à disposition. Un concours donc sur RMC Running, les trois vestes Concurve Insulted. Magnifique produit. C'est 250 euros la veste, hein, je crois.
Ouais, c'est 249 pour celle à capuche, effectivement. 199 pour le gilet. Mais encore une fois, sur la durée, sur 5-6 ans, voilà, c'est là ça. Où il faut regarder l'investissement. Exactement. Et l'intérêt, c'est quand vous partez courir l'hiver. Vous êtes confortable sur toutes vos courses hiver, vous ne posez pas la question si vous allez avoir froid ou trop chaud. Quoi.
Vous ne serez pas déçu. Et un frileux comme Johan Durand peut vous le dire. Voilà. Pour lui, dès qu'il fait moins de 10 degrés, il fait froid. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est du produit de qualité. Ludo, merci d'être venu. À bientôt dans RMC Running.
Eh ben, merci pour l'invitation. À bientôt. Bonne continuation.
Et bonne journée à toi. Bye bye. Et un grand merci donc à Malek Boukarchi qui est venu aujourd'hui dans RMC Running. Merci pour ce témoignage. Tu sais qu'on va vous suivre hein, du coup. Hein. On a hâte d'être au marathon de New York et de voir ce que ça donne. Hein.
Avec plaisir.
Tu viendras débriefer d'ailleurs. Tu nous diras comment ça s'est passé, d'accord ?
Avec un jeune ?
Avec un, deux, voire trois jeunes.
Ah ben avec plaisir, on viendra avec des jeunes.
Quand tu veux. Alors, les 25 peut-être, ouais, on les fait passer en enfilade. Moi je suis chaud. Hein. Tu les fais venir à Paris.
Bon, et
c'est
les
quand
25,
tu veux.
On aura le campus de célébration, mais en tout cas, on a une team de 10 personnes sur la région parisienne. Donc, ils peuvent venir s'ils sont dispo avec joie. Mais en tout cas, vraiment, merci, c'est un vrai plaisir. Benoît,
merci beaucoup. Je ne m'engage pas pour lui, mais on va poser la question. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à Dorian Louvet si vous voulez participer à ce run communautaire. Lui, il est ravi de faire ça. Et en plus, là, c'est une belle histoire. Donc, ce sera l'apogée de son projet et l'apogée du tien. Donc, finalement, il y a une concordance des temps. Qui est assez intéressante. Merci Malek.
Merci beaucoup.
Bonne journée à toi. Un grand merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.